enfin, je vais pouvoir changer le regard de ta parole ce matin. Et je te demande vraiment que toi qui puisses nous parler, que tu puisses voilà, parler à notre cœur, que tu puisses conduire ces moments et que nous puissions sortir fortifiés en disant encore une fois, quel Dieu grand tu es, quel Dieu fidèle, quel Dieu sur qui on peut compter. Alors, nous sommes le 30 avril, nous arrivons à la fin de notre circuit dans Je vais juge, Samuel et les rois. C'est surtout des lectures, mais du coup, il y a le texte qui. Voilà. Alors, bon, on arrive à la fin de notre circuit. On a vu l'arrivée dans le jour. On a vu l'arrivée dans le pays promis, mais une conquête partielle avec Josué. Nous avons encore vu l'infidélité du peuple qui s'est détourné encore et encore de Dieu, qui ont fait preuve d'une décadence morale franchement incroyable dans Juges. Nous avons vu l'instauration des rois, mais le constat aussi que cette institution n'était pas plus à même de garder le peuple proche de Dieu. Pas plus que l'institution des prêtres. Pas plus que les juges, pas plus que les prophètes. Mais nous nous sommes aussi attardés sur David, un homme et un roi, selon le cœur de Dieu. Et nous avons vu l'alliance que Dieu a formée avec lui, son alliance qu'il allait maintenir son trône pour toujours. Et enfin, nous avons vu la déchéance d'Israël, avec des rois et un peuple de plus en plus enclin au mal, pour finir avec un exil. Un exil du peuple hors du pays promis. Et ce matin, je vous propose de regarder un des psaumes royaux. Donc, c'est les psaumes qui parlent de la royauté d'Israël. Et c'est un psaume qui nous parle aussi de la fidélité de Dieu, mais avec une certaine interrogation. Et donc, nous allons regarder ensemble le psaume 89. Alors, on ne sait pas grand-chose de l'auteur de ce psaume. Donc c'est Ethan l'Ezraïte, donc c'est peut-être un chantre dans la cour de David, parce qu'il y a un certain Ethan dans 1 Chronique 6, 29, qui est un des chantres. C'est peut-être un de ses descendants, donc du coup c'est un psaume de Ethan l'Ezraïte, c'est simplement un de ses descendants. On n'est pas non plus sûr de quand il écrit, mais on verra tout à l'heure, quand on arrive à la deuxième partie du psaume, quelques éléments qui nous permettront de... En tout cas, d'avoir une idée des circonstances d'écriture. Des circonstances qui ont mis en scène très vite ce psaume. Et donc, on a les cinq premiers versets qui nous posent les fondements du sujet qu'Ethan veut traiter. Non, c'est deux versets. Non. C'est simplement un psaume de Ezra, de Ethan. Psaume de Ethan. Psaume de Ethan, Ezraïte. Je chanterai toujours la fidélité du Seigneur. Ma bouche fera connaître ta constance de génération en génération. Car je dis, la fidélité est bâtie pour toujours. C'est dans le ciel que tu installes ta constance. J'ai conclu une alliance pour celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à David, mon serviteur. J'affermirai ta descendance pour toujours et je bâtirai ton trône de génération en génération. Et donc là, Ethan place la fidélité de Dieu, la constance de Dieu à la base de ses promesses. Et ici, il va mettre quasiment au même niveau l'alliance avec David au niveau de la fidélité de Dieu. On a la fidélité de Dieu qui dure pour toujours et il a promis que la descendance de David sera affermie pour toujours. Et donc Ethan va regarder, va nous parler de la fidélité de Dieu et de sa promesse à David. Mais nous allons voir que Ethan vient qu'assurer de cette fidélité et nous allons lire le début du psaume qui est une acclamation frappante de cette fidélité. Mais on va voir qu'il n'est pas sans interrogation face à une situation très difficile qu'il vit. Même que Israël vit en général. Et peut-être que nous aussi, dans nos situations qui sont aussi difficiles, on peut aussi avoir ces interrogations. Et donc, la première partie est de nous parler de la puissance et de la grandeur de Dieu. D'où vient que nous puissions faire confiance à Dieu? Comment être sûr qu'il est constant et loyal? Ethan nous invite à commencer notre réflexion en contemplant la puissance, la grandeur, la fidélité de Dieu dans ses œuvres et dans sa nature même. Et donc je vous propose de lire à partir du verset 6, on va lire jusqu'au verset 19. Le ciel célèbre tes actes étonnants, Seigneur. Oui, ta constance dans l'assemblée des saints. Qui donc dans la nuit peut se mesurer au Seigneur? Qui est comparable au Seigneur parmi les fils des dieux? Dieu est terrible dans le conseil secret des saints, redoutable pour ceux qui l'entourent. Seigneur Dieu des armées, qui est puissant comme toi, Seigneur? Ta constance est tout autour de toi. C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les abaisse. C'est toi qui as écrasé Rahab comme un cadavre. Tu as dispersé tes ennemis par ton bras puissant. À toi appartient le ciel. À toi aussi appartient la terre. C'est toi qui as fondé le monde avec tout ce qui s'y trouve, le nord et le sud. C'est toi qui les as créés. Le Tabor et l'Hermon crient ton nom. Tu as le bras armé de vaillance. Ta main est puissante. Ta main droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La fidélité et la loyauté se tiennent devant toi. Heureux le peuple qui connaît les acclamations. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Par ton nom, il est sans cesse dans l'allégresse. Par ta justice, il s'élève, car tu es sa splendeur et sa puissance. C'est par ta faveur que notre corne s'élève, car notre bouclier appartient au Seigneur, notre roi, au sein d'Israël. Tant de raisons de louer l'Éternel, tant de raisons de lui faire confiance. Quelle louange porte, venant de quelqu'un qui, on le verra, a des doutes à la fin du psaume. Et donc, que relève Ethan? D'abord, il relève qui est Dieu. Il est un Dieu incomparable, un Dieu dont personne n'est à la mesure. Un Dieu qui domine sur toute la création, qui contrôle la mer. La création elle-même lui rend gloire. Et enfin, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui le Créateur. Ensuite, c'est un Dieu qui, par ses interactions avec son peuple, montre sa fidélité. Il a un règne juste et équitable. Son peuple est heureux d'être en sa présence. Il défend son peuple, il détruit ses ennemis, et toujours revient cette idée que Dieu est fidèle, Dieu est constant. Dieu est fidèle dans les grandes choses et les petites choses. Il est constant, il ne change pas. Et enfin, la dernière preuve de sa fidélité, son alliance avec David. Alors, je vous propose, avant de lire ce que Ethan a à nous dire par rapport à l'alliance de David, de relire les paroles prononcées par Dieu dans 1 Samuel 7, les versets 8 à 16. Donc, c'est David qui voulait construire une maison pour Dieu, lui construire un temple, et voici la réponse que Dieu va faire à David. Maintenant, tu parleras, Nathan, le prophète, tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi, et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger, comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Et donc là, nous voyons cette alliance que Dieu a fait avec David. Mais une alliance un peu comme un mariage. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et là, c'est un peu la même idée dans cette alliance. Il y a cette alliance pour le meilleur, où Dieu dit, oui, le trône sera affermi pour toujours. Mais cette alliance aussi pour le pire, où si les descendants de David s'éloignent de lui, bah, Dieu promet qu'il les châtiera, qu'il y aura des conséquences à leur péché. Et donc, je vous propose de continuer avec, en lisant dans le psaume 89, les versets 20 à 30, où nous allons voir voilà, ce « pour le meilleur ». Donc, on a Ethan qui nous a raté la fidélité de Dieu, et maintenant, il va nous rater la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pour les descendants de David. Alors, tu parlas des fidèles dans une vision. Tu dis, j'ai prêté secours à un vaillant guerrier. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je lui ai conféré l'onction de mon huile sacrée. C'est lui que ma main soutiendra. Mon bras le rendra fort. L'ennemi ne le surprendra pas. L'homme injuste ne l'affligera pas. Je taillerai en pièces ses adversaires devant lui. Je frapperai ceux qui le détestent. Ma constance et ma fidélité seront avec lui. Et sa corne s'élevera par mon nom. Je soumettrai la mer à ma main. Je soumettrai la mer à sa main, les fleuves à sa main droite. Lui qui m'invoquera en disant, tu es mon père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier nid, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma fidélité et mon alliance avec lui sera sûre. J'établirai ses descendants à jamais et son trône pour tous les jours du siècle. Et là, on voit quelle grâce Dieu fait en choisissant David. En l'élevant au-dessus des Israélites, il était un homme selon le cœur de Dieu, mais au final, il restait un homme. Et c'est dans sa grâce que Dieu l'a choisi. Et c'est aussi une grâce, ce que Dieu lui promet. Promesse d'être avec David, la promesse d'être avec ses descendants, la promesse de les défendre de leurs ennemis, et même la promesse d'une relation particulière, une certaine filialité, où les descendants de David pourront appeler Dieu leur père. Et là, on voit vraiment cette promesse qui est sans condition. Cette promesse éternelle. Et même quand Ethan nous décrit ses promesses, on retrouve des éléments de ce qu'il avait déjà dit de la fidélité de Dieu. On avait Dieu qui était puissant et qui contrôlait la mer, et là, la promesse, c'est qu'il soumettra la mer à David. Il rappelle encore une fois que Dieu est le rocher, celui en qui on peut se confier. Et fort de toute de ce qu'il a dit avant sur la puissance et la grandeur de Dieu, on a cette promesse à David. Mais même si on a ces promesses qui sont sans condition, il reste des éléments conditionnels. Et on peut continuer la lecture du verset 31 au 38, où là nous allons voir qu'est-ce qui se passe en cas de désobéissance. Si ses fils, les fils de David, abandonnent ma loi et ne suivent pas mes règles, s'ils profanent mes prescriptions et n'observent pas mes commandements, c'est avec un bâton que je leur ferai rendre des comptes pour leur révolte. C'est par des coups que je les châtirai par leur faute, pour leur faute. Mais je ne mettrai pas fin à ma fidélité envers eux. Je ne trahirai pas ma constance, je ne profanerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai fait un seul serment par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il sera fermement établi pour toujours. Le témoin qui est dans la nuit est sûr. Et donc peut-être si on s'arrêtait à toutes ces promesses absolues, il y aurait peut-être un monde de justice dans la grâce qu'offre Dieu à David. Mais tout comme l'alliance avec Moïse, qui a été faite avec les 10 commandements, avec juste après l'Exode, il existe une part conditionnelle. Avec Moïse, c'était, on va dire, une condition assez simple. Si le peuple obéit à Dieu, il sera béni. Si le peuple désobéit à Dieu, il sera maudit. C'est simplement, il y a ce choix. Est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que je désobéis à Dieu? Mais même dans ces malédictions, même dans toutes les choses qui vont mal se passer si jamais le peuple désobéit, notamment l'exil, l'exil de la terre promise, Dieu laisse toujours cette possibilité de revenir. Il dit, voilà, même dans ces situations, même quand vous êtes exilés loin du pays, si jamais vous revenez à moi, eh bien je vous entendrai et je vous exaucerai. Et de même, Dieu va promettre de punir les fils de David qui s'éloignent, qui désobéissent et qui suivent leur propre chemin. Bon, on a cette même idée que, tout simplement, il y a des conséquences à notre péché. Mais, de même, il promet aussi de conserver pour toujours la descendance et le trône de David. Donc même dans ces aspects conditionnels, qui sont conditionnés par l'obéissance des rois, l'obéissance du peuple, il y a aussi ces promesses qui resteront. Et du coup, on arrive à la partie du psaume où Ethan regarde la situation où il est. Il a regardé la fidélité de Dieu, il a regardé les promesses de Dieu, et il regarde autour de lui, il dit, je ne vois pas ces promesses, je ne vois pas cette fidélité. Et donc il va se tourner vers Dieu. Il va lui montrer l'état de tout ce qu'il voit, et il va l'interpeller par rapport à ses promesses. Et donc, je vous propose d'abord de regarder l'état des lieux qu'Ethan va nous dresser à partir du verset 30. Pourtant, et c'est peut-être ce pourtant, voilà, on a vu toutes ces promesses, toutes ces belles choses, et là Ethan il dit, pourtant. Pourtant, toi, tu as rejeté, tu as méprisé. Tu t'es emporté contre l'homme qui a reçu ton onction. Tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur. Tu as profané à terre son diadème. Tu as ouvert des brèches dans toutes ses clôtures. Tu as démoli ses forteresses. Tous les passants l'ont pillé. Il est exposé aux outrages de ses voisins. Tu as élevé la main droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée. Tu n'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à son éclat. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert d'orgueil. D'après ce qu'Ethan décrit, il parle peut-être de ce qui se passe après la mort de Salomon, quand le royaume est divisé. Il parle peut-être plus probablement de l'exil, où là, on a carrément les rois de Juda qui ont été emportés à Babylone. Israël est un territoire conquis. Le trône de David a l'air d'être terminé. Quel contraste avec toutes ces promesses qu'Ethan a rappelées. Et Ethan va même dire voilà, que c'est Dieu qui est à l'origine de ce qui se passe. Et ce n'est pas complètement faux. En effet, que ce soit la division après le règne de Salomon, que ce soit l'exil, l'origine reste le péché du peuple d'Israël et des rois. Dans les deux cas, ce qui se passe, ce n'est que justice, que la conséquence du viol par le peuple de l'alliance avec Dieu, et non le viol de Dieu de l'alliance. Dans les deux cas, Dieu reste fidèle à son alliance. Dans 1 roi 11, Dieu va annoncer la couleur à Salomon à la fin de sa vie. le Seigneur se mit en colère contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu par deux fois. Il lui avait ordonné, à ce sujet, de ne pas suivre d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas ce que le Seigneur lui avait ordonné. Alors le Seigneur dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi de toi, puisque tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions, telles que je les avais instituées pour toi, je vais déchirer le royaume pour te l'ôter et le donner à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Et donc, cette division n'est que la conséquence du péché de Salomon. Mais on voit toujours la fidélité de Dieu à son alliance, où il va garder. Il va garder le trône de David en partie, et il va le laisser la fermer. Et pour l'exil, c'est tout le livre des rois qui est là pour expliquer comment le peuple de Dieu a fini en exil. Dans le classement hébreu des livres de l'Ancien Testament, les rois, tout comme Josué, Juge et Salomon et Samuel, se situent dans les livres prophétiques et non les livres historiques. Ils expliquent l'histoire du peuple d'Israël, oui. Ils expliquent l'entrée dans la terre promise, jusqu'à la sortie de la terre promise avec l'exil, mais d'un point de vue théologique. Pourquoi est-ce que le peuple est exilé de la terre promise? Est-ce que c'est parce que le Dieu d'Israël est moins fort que les dieux des Babyloniens? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas fidèle à ses promesses? Parce qu'il n'existe pas? Non. Les livres sont là pour expliquer que non, ce qui se passe, c'est à cause de la désobéissance du peuple. Mais si on revient à l'exil, même dans l'exil, la fidélité de Dieu reste là. Même dans une situation où on a l'impression que tout est détruit, que tout est fini, Dieu reste là. C'est assez difficile de lire la fin des rois, avec des rois de plus en plus mauvais, de plus en plus éloignés de Dieu. Le peuple qui est détruit, qui est exilé une, deux, et puis une troisième fois. Au final, tout ce qui reste fuit en Égypte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne en Israël. Et je vous propose de lire ensemble les derniers versets de Deux Rois. Donc c'est Deux Rois 25, les versets 27 à 30. Là, c'est vraiment la toute fin, après tous les exils. Le verset d'avant, tout le peuple qui reste est parti en Égypte. Et là, la 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda. Le 27e jour du 12e mois, Évin Merodach, roi de Babylone, l'année où il devint roi. Gratia Joachim, roi de Juda, et le tira de la maison de détention. Il lui parla avec bonté, et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit enlever ses vêtements des détenus. Joachim mangea devant lui constamment, tous les jours de sa vie. Son entretien constant, lui fut assuré de la part du roi, selon l'ordre de chaque jour, tous les jours de sa vie. Et là, c'est pas pour rien que le livre de Deux Rois se termine avec ce passage. Là, on voit que même dans l'exil, même avec tout ce qui s'est passé, Dieu se souvient de la lignée de David. Il reste fidèle à son alliance et il continue d'affirmer les descendants de David. Donc là, on a cet état des lieux, peut-être assez désespérant d'un point de vue humain. Pour Ethan, il ne voit pas toutes ces choses, il ne voit pas l'action de Dieu. Et donc, pour terminer le psaume, il va crier à Dieu. Il va crier à Dieu face à cette situation qu'il ne comprend pas. Donc à partir du verset 47, « Jusqu'à quand, Seigneur, te cacheras-tu sans cesse? Et ta pureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Souviens-toi de ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quelle illusion tu as créé tous les êtres humains? Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort? Ou échapper à l'emprise du séjour des morts? Où est ta fidélité d'autrefois, Seigneur? Celle que dans ta constance tu as juré à David. Souviens-toi, Seigneur, des outrages que tes serviteurs subissent. Souviens-toi que je porte sur mon sein toute la multitude des peuples. Seigneur, souviens-toi que tes ennemis se répandent en outrage, qu'ils outragent les pas de l'homme qui a reçu ton onction. Ces paroles sont difficiles. Il se demandait presque où est passé l'Éthan qui louait Dieu pour sa fidélité en début du psaume. Je pense qu'il est toujours là. Mais il crie simplement à Dieu son incompréhension face à la situation devant ses yeux. Il en appelle à Dieu pour lui demander d'avoir pitié de lui, d'avoir pitié du descendant de David, de se souvenir de sa promesse, de ses promesses, pendant qu'il est toujours en vie. Il lui rappelle que la vie de l'homme est courte et il aspire à voir la délivrance du Seigneur. Ne partons pas de ce psaume déprimé. Il est vrai que même si nous avons vu que Dieu reste là, dans la situation à vue humaine désespérée de l'exil, au final, Éthan, en ayant commencé avec le constat de la fidélité de Dieu, finit avec un cri à Dieu, lui demandant où est sa fidélité. Le psaume précédent, le psaume 88, est un peu du même acabit, puisque c'est un psaume qui est 100% lamentation. Si vous le lisez, il n'y a pas de louange, un sentiment d'espérance, on a simplement un cri vers Dieu dans la détresse, une supplication désespérée. Mais ces psaumes ne sont pas là pour nous laisser dans un état de dépression, en nous disant « Ah, c'est dur ». Dieu n'a pas inspiré les auteurs de ces psaumes, il n'a pas intégré ces psaumes dans la Bible par erreur. Que fait Éthan face à cette situation difficile qu'il ne comprend pas ? D'abord, il loue Dieu pour qui il est et pour ce qu'il fait. Il se souvient des promesses de Dieu, de sa fidélité. Et il lui remet cette situation qu'il ne comprend pas. Il lui apporte son incompréhension et il l'appelle à l'aide. N'ayons pas peur de crier à Dieu. N'ayons pas peur de lui crier notre incompréhension. Mais n'ayons pas peur aussi de lui faire confiance en nous soutenant de sa fidélité. Alors, je n'ai pas encore mentionné le dernier verset du psaume. Puisqu'il ne fait pas a priori partie du psaume original, puisque le psaume 89 termine une des cinq sections du livre des psaumes, et chaque section est terminée par ce qu'on appelle une doxologie, une formule de louange. Mais je ne pense pas que ce soit par hasard que cette louange arrive juste après le psaume 89. Béni soit pour toujours le Seigneur, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Même si nous sommes confrontés à une situation difficile, même si peut-être nous n'arrivons pas à voir l'action de Dieu, même si peut-être nous pourrions croire que Dieu nous a abandonnés et a abandonné ses promesses, on peut être assuré que Dieu est là et qu'il est fidèle. Et si comme Éthan, nous croyons à la fidélité de Dieu, et en même temps nous avons du mal à voir cette fidélité dans nos situations, crions à Dieu. Prions peut-être à Jésus, comme ce père d'un enfant démoniaque. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon infidélité. Alors, je vous propose de prendre quelques instants pour nous souvenir de la fidélité de Dieu, prendre un temps dans le silence. Et ensuite, nous chanterons ensemble Dieu ta fidélité, pour nous rappeler de cette fidélité.